livrer un message d'unité pour le continent américain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Dimanche 15 février de 8h à 19h. Pousse la porte de Radio G à Angers. Tu t'es déjà demandé comment se fabrique une émission de radio ? Viens découvrir l'envers du décor. Visite les studios et assiste à des émissions en direct et échange avec les animateurs et bénévoles de Radio G. T'es curieux, passionné ou juste un simple auditeur ? Radio G t'ouvre grand ses portes. Entrée libre et gratuite, dimanche 15 février de 8h à 19h, 3 rue de la Rame, Angers. Plus d'informations sur radio-g.fr.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bonsoir, vous êtes bien sur Topette avec moi Sidonie ce soir. Et oui, ce n'est pas Pierre Benoît qui présentera. Il laisse sa chance à la nouvelle génération. Donc pour m'accompagner, il y aura Loris, l'autre jeune de l'équipe, qui fera les interviews de ce soir. Et d'ailleurs, dis-nous Loris, de quoi allons-nous parler ce soir ?
Alors aujourd'hui, on va parler de théâtre avec nos deux invités. Je laisse le suspense pour la suite.
Hâte de découvrir ensemble cette belle pièce de théâtre alors. Mais ce n'est pas tout pour ce soir, nous allons aussi dans les gradins avec Gabin pour la Minute Sport, ensuite faire un petit détour par les charabia. Dis-nous Aurélia, quel est le thème des charabia du jour ?
Eh bien, on parle d'amour ce soir.
Voilà un petit amuse-bouche qui donne envie d'attendre pour la pièce principale.
18h10, 19h, Topette, sur Radio G.
Mais avant ça, petit point actualité avec Ivana.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, la décision est tombée. La micro-crèche Les Petits Papayous, située à Angers, est fermée provisoirement, et ce, pour une durée de 3 mois. C'est le conseil départemental de Maine-et-Loire qui en a décidé ainsi. Et pour cause, dès juin 2025, divers problèmes ont été découverts, et depuis, cela n'a jamais été corrigé. Et ceux qui ont été relevés, c'est une accumulation de manquements graves à l'hygiène, à la sécurité et à l'organisation, mettant en danger les enfants accueillis. Ce qui est notamment évoqué, ce sont des locaux et du matériel mal entretenus. Ici, la présidente pointe du doigt les moisissures sur les fenêtres ou encore le réfrigérateur fortement encrassé. Il y a aussi les installations jugées dangereuses, comme les prises électriques non sécurisées et les radiateurs accessibles aux enfants. Et enfin, c'est l'espace extérieur qui a été ciblé avec des dalles dégradées et des jeux inadaptés. Côté culture, jusqu'au 15 mars, le château d'Angers propose un étonnant voyage dans le temps au cœur de sa chapelle. Après le succès de l'oppidum gaulois l'année dernière, les figurines Playmobil font leur retour pour faire revivre Julio Magus, le nom d'Angers à l'époque gallo-romaine, quand la ville était une cité antique avec un amphithéâtre et des temples. Sur place, vous trouverez une maquette spectaculaire de 20 mètres carrés avec plus de 300 personnages et tout cela réalisé par l'angevin Hervé Arrault ainsi que les équipes du château pour offrir une reconstitution fidèle et vivante de la cité. Autour de l'installation, il y a également des panneaux explicatifs pour mieux comprendre l'histoire du site. Et pas de panique, l'accès est compris dans le billet d'entrée du château et disponible aux horaires habituel. Et autre nouveauté à Angers, cette fois-ci, c'est une salle de réception installée dans une serre végétalisée qui vient d'être inaugurée dans le quartier Saint-Serge, baptisée La Serre. Cet espace événementiel imaginé par le groupe Giboire s'intègre au projet immobilier Métamorphose. Cette structure en verre en forme de dôme, haute de 7 mètres, peut accueillir des conférences, des cocktails ou encore des rencontres professionnelles sur environ 200 mètres carrés. C'est un lieu présenté comme atypique, entouré de plantes d'inspiration méditerranéenne et conçu pour proposer un cadre original aux événements organisés dans la résidence.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci Ivana pour ce point actu. Maintenant, parlons de l'événement à venir. La compagnie théâtrale du Pont d'Ardoise arrive avec sa comédie annuelle, Impair et Pair de Riconnet, un spectacle hilarant mis en scène par Carole Galisson. Il y aura des représentations le 13 et 14 février à 20h30 et le dimanche 15 février à 15h, salle Georges Brassens à Avrillé. Et le vendredi 20 et 21 février à 20h et le dimanche 22 février à 15h, salle Claude Chabrol à Angers. Le tarif est de 9 et 5 euros. L'ouverture de la billetterie se fait sur place 30 minutes avant la séance. Si vous voulez des renseignements, contactez le 06 22 40 12 83. Et tout de suite, nous allons accueillir nos invités de la soirée avec Loris.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et oui, aujourd'hui dans Topette, on parle théâtre avec nos deux invités, Emmanuel Landais et Guillaume Huchet. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Et bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Loris.
Vous faites partie de la compagnie angevine Beau Débit et présente La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. La pièce est à retrouver prochainement au Folie Angevine. On rappellera les dates vers la fin de l'émission. Une pièce qui raconte l'histoire de l'arrivée de Claire Sahanassian, milliardaire qui ravive l'espoir économique dans la ville de Goulen. Son don est conditionné à la mort d'Alfred III, poussant la communauté à choisir entre morale et confort. Nos invités en parleront mieux que moi, bien sûr. Donc on va parler de votre compagnie, de la thématique et de votre parcours. Mais avant tout, la pièce, est-ce que vous pouvez la présenter brièvement ?
Eh bien, t'as bien résumé les faits. Alors c'est il n'y a pas de roi dans la pièce, c'est pas Alfred III, c'est Alfred Hill, mais okay. Écrit, on dirait un 3.
Okay.
Je comprends.
Ça fait ILL, donc okay. Forcément que...
Alfred Hill.
Donc oui, c'est une pièce des années 50, mais qu'un écho énorme on trouve nous aujourd'hui, parce qu'elle met sur la table des sujets d'argent, de morale, de questionnement, de confort, des choses qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui. Et donc, on a voulu l'apporter avec cette nouvelle compagnie. Il y a toute cette histoire donc de revanche, en fait, de cette vieille dame qui revient dans sa ville natale et qui va proposer une somme astronomique à ces villageois qui sont ruinés, mais avec, en conditionnement, un choix moral assez discutable. Donc, toute la pièce est basée sur cette réflexion des villageois. S'ils veulent accepter l'argent, est-ce qu'ils renoncent un peu à leur humanité ?
Ok. Et du coup, la pièce pose une question assez simple. Jusqu'où peut-on aller pour retrouver le confort ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Plus personnellement, une question. Est-ce que ça vous touche ? C'est une question qui vous touche personnellement ou...
Ouais, je pense que c'est universel surtout.
Okay.
Donc j'espère que ça touchera tout le monde. Venez pour vérifier. Et effectivement, c'est une comédie noire, et c'est ça qui est plutôt chouette, parce qu'une comédie noire, ça signifie qu'on rit, mais qu'on rit jaune très souvent, et qu'à l'intérieur de soi, il faut faire un choix, et quel choix aurait-on fait, nous ? Ça vous pose la question de manière directe, de temps en temps, vous aurez peut-être envie de lever la main pour voter pour l'un ou pour l'autre, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut la justice, est-ce qu'on ne la veut pas, et à quel prix ?
Et est-ce que vous voyez des liens assez évidents avec notre société actuelle, ou pas forcément ?
Ah bah complètement.
Complètement.
pour le coup. Oui, la question est bonne. Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que dans une société en ce moment qui manque de plus en plus de tout, que jusqu'où peut-on aller justement pour retrouver son confort, sa prospérité, c'est une vraie question.
Et comment la mise en scène, elle vient caractériser le propos de la pièce ?
Ah, alors déjà, par le plan de feu. Parce que au départ, on part sur un plan de feu très très palichon, on va dire quelque chose de, puisqu'on est justement dans cette misère-là, donc on la met en avant également par le maquillage ou les costumes. Et puis petit à petit, puisque les gens petit à petit vont décider de retrouver un petit peu de confort sans aller jusqu'au bout et jusqu'au dénouement de la pièce, la lumière et le maquillage évoluent en fonction.
Ok. J'ai lu dans la note d'intention qu'il y avait des moments drôles, mais aussi assez dérangeants. C'est important pour vous de trouver l'équilibre entre ces deux, ces deux choses.
Oui, oui, c'est tout le propos de la pièce, ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que on veut que le public rigole, mais en même temps que des fois ils se sentent peut-être un peu mal à l'aise d'avoir rigolé sur certaines choses, ou alors qu'à la fin de la pièce, eh ben il lui reste un peu de questions sur la pièce, et ça serait vraiment un but qui serait atteint si quand le public sort de cette représentation, il ne sait pas trop quoi en penser par rapport à son positionnement, par rapport à ce qu'il a vu. Il y avait aussi sur la mise en scène l'importance du nombre de comédiens sur la scène. C'est une pièce à l'origine qui peut jouer jusqu'à une vingtaine de comédiens avec énormément de petits rôles, mais vraiment une grosse distribution. Nous, on a fait le choix, forcément, de réduire un peu cette distribution, mais de conserver. Là, on est 7 comédiens au plateau, donc de conserver quand même du monde. Quoi. C'est un village, il y a des foules. Il faut que ce soit représenté. Et ça rejoint le contexte actuel. En fait, on a fait le choix aussi de garder une pièce qui, peut-être économiquement, n'est pas dans les standards actuels, où on serait plus à 2-3 comédiens. Là, on ne pouvait pas, avec cette pièce-là, pas le choix. Il faut être un minimum sur scène pour faire vivre tout ça.
Donc vous êtes combien sur...
7, effectivement, dans le spectacle vivant. Là, c'est un luxe de se dire on reste 7 au plateau. Tant pis, on assume ça. Très difficile à vendre, forcément, mais on le revendique parce que... On ne peut pas passer le même message à un ou deux, c'est impossible. Donc allons-y, on tente le coup.
Okay. Et plus globalement, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter cette pièce ?
C'est Guillaume.
En fait, moi, c'est une pièce que j'ai déjà jouée il y a 3 ans, au Folie en Juin également, mais dans un contexte totalement amateur. Et c'est une pièce qui m'avait vraiment marqué. Et j'avais toujours gardé le souhait de la remonter de façon plus professionnelle si la possibilité se faisait. Et l'année dernière, quand j'ai vu que les Folies Angevines cherchaient leur programmation pour l'année prochaine, j'ai proposé qu'on monte une compagnie pour ramener cette pièce-là une nouvelle fois. Donc ça s'est fait. Et puis après, c'est agrégé progressivement des comédiens de tous âges, de tous horizons autour de la pièce. Des comédiens qui sont locaux, hein, parce que tous les comédiens sont angevins et une comédienne est saumuroise. Donc ça va pas très loin. On reste aussi dans ce noyau local qui est important pour nous.
Vous travaillez depuis longtemps sur cette pièce ?
Quand est-ce que tu as fait passer les auditions, toi ?
Ça a germé en janvier-février 2025, donc là, maintenant, il y a un an, avec les auditions qui sont enchaînées dans la foulée, la distribution des rôles du texte, l'apprentissage pendant tout l'été 2025, et on est en répétition depuis septembre 2025, ouais, maintenant.
Ok. Ouais.
Oui, puis c'est important de dire que Guillaume est un jeune professionnel. En fait, il a acquis son intermittence du spectacle en début d'année et que justement, il s'est dit c'est le moment de monter ma compagnie et puis de se lancer dans le grand bain. Et je trouve ça vraiment chouette qu'il ose tout de suite aller dans ce genre de texte et dans ce genre de réalisation.
Ok. Merci pour cette partie. Je pense qu'on va passer à la prochaine. Je laisse le micro à Sidonie.
Donc tout de suite, une petite pause musicale pour digérer toutes ces informations.
One foot in the grave, one stepped on the floor, two stepped out the way, two glares up at one, what you wanna say? One stares back at two, two is unafraid, two steps up the stair, two steps out the way, one smiles back at two, now this shit's a race, now they're skipping steps, reps just get replaced, one, two, one, one trip, something's in the way. Tap dance, syncope, woo! Strategizing, you can syndicate. One is ashamed, crushed, ready to run back. Two looks to one, like, listen for once. That fall ain't your fault, dog. That was just one step. Always a tall wall, ladders and small steps. That's where you got me, leaps of football step. We gon' play leapfrog, paradiddle rap, single double step.
maintenant, revenons avec toi, Loris, pour revenir sur notre sujet de la soirée.
Topette sur Radio G.
Et maintenant, on va parler un peu plus de la compagnie. Du coup, la compagnie Beau Débit est toute récente. Ça a été créé en 2025. Comment elle est née, cette compagnie?
Eh ben, par le souhait de porter ce projet de pièce de la visite de la vieille dame et par le besoin de se structurer pour pouvoir porter tout ce projet. Donc, voilà, moi, l'acquisition de l'intermittence tout récemment, la volonté de créer ce premier, cette première pièce et donc le besoin d'avoir la compagnie pour supporter tout ça.
Ok, et pourquoi autour de cette pièce en particulier?
Parce que c'est une pièce du coup que j'avais déjà jouée et qui me tenait vraiment à cœur, donc j'avais envie de la repenser et puis de m'entourer de comédiens. Alors je ne connaissais pas tous les comédiens qui font partie aujourd'hui du projet, mais quand même de m'entourer de comédiens avec qui j'avais envie de jouer. Et donc, il fallait quelque chose de stable pour porter tout ça. Et puis, j'espère que ce sera le début de cette compagnie qui, après, permettra d'autres projets.
Ok. Donc, vous êtes 7 comédiens sur scène. Pourquoi ce choix?
Ah, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Ouais. Mon pauvre, on devance tes questions. parce que le nombre est important puisque c'est un village. Okay. Donc, de toute façon, même si chacun ou quasi chacun d'entre nous va jouer plusieurs personnages, c'était important d'avoir un nombre de manière à avoir un effet de groupe et cet effet de masse. Et donc, justement, cet effet de tribunal constant, il est porté que par le nombre. Parce que si on avait été 3 à se distribuer la vingtaine de rôles, ce qui est possible, on peut toujours tout adapter, on n'aurait pas eu cet effet de masse. Il aurait sans doute fallu qu'on se serve beaucoup plus du son. Là, on a du son, on a de la musique qui est très porteuse aussi, porteuse de sens et de poids. Mais ça nous évite... Oh j'adore la radio. Voilà, c'était magique comme moment-là. Et donc, oui, c'est ça. Ça évite de devoir utiliser des artifices de pouvoir être ce nombre-là, tout bêtement.
Ok, et c'est fait par hasard, du coup, 7 ou ça a vraiment été choisi, 7 comédiens
C'était la découpe, pense, minimum, quoi.
C'est vraiment le minimum si on veut conserver l'ensemble des personnages et avoir suffisamment de cohérence dans tout cet ensemble. Il fallait un minimum de 7 comédiens. Ça veut dire aussi réfléchir à la rémunération de chacun. Donc, il y a vraiment plein de d'axes à prendre en compte. Mais oui, c'est un bon format. Puis ça, je pense qu'il y a un public aussi qui a envie de voir des pièces avec du monde sur scène et pas simplement de se limiter, encore une fois, à des pièces à une ou deux qui sont... Il y en a des très bien, mais bon, voilà, le théâtre, c'est autre chose que le stand-up ou le one-man show. On peut montrer des choses qui ont vraiment du corps, quoi.
Oui, c'est Pierre Benoît qui vous parle. Je suis de retour finalement, moi aussi, parce que c'est pour les mêmes raisons que Manu, ça me gratte la gorge. Donc j'évite de prendre la parole. Merci Sidonie et Loris. Juste une petite question, parce que j'assiste en tant qu'auditeur, du coup, à cette interview. Tu disais que tu l'avais fait en amateur avant, même si amateur, ça ne diminue en rien la qualité qu'on peut proposer. Là, c'est d'un point de vue professionnel. Est-ce que ça change ta manière d'appréhender justement cette mise en scène, la manière dont tu as pu aussi revoir l'écriture et la manière dont tu peux le vivre émotionnellement aussi?
Effectivement, là où je rebondis sur ce que tu dis, c'est que la différence entre amateur et professionnel, ça ne change rien à la qualité bien souvent. Ça va changer peut-être l'exigence en fait qu'on attend du comédien, des comédiens du coup, et peut-être l'exigence aussi que va en attendre le public. On fait en sorte de travailler beaucoup plus. On fait en sorte d'être irréprochable avec nous-mêmes. Non, ça va pas changer fondamentalement la mise en scène. Simplement, on se donne peut-être plus les moyens de créer quelque chose avec une envergure un peu plus importante.
Ok. Et qui compose l'équipe de cette compagnie? On peut avoir un peu les détails?
Tu vas dire les noms?
Oui, c'est ça, les noms, leur rôle dans la compagnie.
Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi dans la formation qui s'est faite, c'est que ça vient d'à peu près tous les horizons. En termes d'expérience de jeu, en termes d'âge également. Donc, si on fait un peu la distribution, on a donc Isabelle Bucaille qui joue la vieille dame, donc une comédienne maintenant très expérimentée, hein, qui a fait euh, qui a fait sa vie à Paris et qui joue maintenant, enfin qui vit maintenant à Saumur et qui nous a rejoint. On a donc Emmanuelle Landais, toi tu es improvisatrice de base.
De base théâtre classique, improvisatrice ensuite.
Improvisatrice ensuite.
Et je ne suis pas la vieille dame.
On a Valentin Trognon, qu'on connaît aussi via l'improvisation, qui joue Alfred Hill. On a Jean-Marie Rostren, on a Mathilde Bellencontre, donc là, plus jeune, elle sort de l'ASTA, qui est une école de théâtre à Angers. Et Nathalie Lherbette également, comédienne angevine. Et enfin, moi, Guillaume Huchet, comédien et metteur en scène.
Donc, tous ensemble, vous formez la compagnie Beau Débit. Pourquoi ce nom? D'où vient-il?
On a fait un brainstorm à un moment. Alors, moi, j'adore les brainstorms pour les noms, les titres et tout ce que tu veux. Mais celui-ci, c'était Valentin qui avait fini, mais vraiment en fin de liste, qui avait écrit Body B, comme ça, il avait juste associé des sons. Et moi, je me suis dit, c'est marrant qu'il t'a associé des sons et à l'écrire comme des onomatopées, autant que ça puisse avoir un sens caché. Oulala, Bodebi, donc B-O-D-E-B-I. C'est rigolo à écrire, mais évidemment, ça signifie quelque chose pour le théâtre.
Oui, le Bodebi de parole, c'est ça.
Exactement.
Hein. Ok. Et plus globalement, à quel public vous vous adressez avec cette pièce?
Alors, en termes d'âge, on en parlait, c'est marrant, il y a quelques jours, on s'est dit qu'avant 12 ans, ce serait quand même compliqué parce que même si c'est absolument pas violent par rapport à tout ce qu'on peut voir sur des écrans ou quoi que ce soit, c'est quand même violent dans le thème lui-même. Et pour l'intellect, c'est pas si simple à comprendre. Donc, avant 12 ans, je pense que c'est pas simple. Après, ça s'ouvre à tous, vraiment à tous.
Ok. Mais vous attendez une tranche d'âge en particulier, non, pas forcément.
Mais quand on a commencé à réfléchir le projet, on l'a vraiment réfléchi en deux sens, en se disant c'est à la fois une pièce, voilà, tout public qu'on peut jouer dans les théâtres. Et non, on n'a pas de tranche d'âge attendue. Le mieux, c'est que ce soit au contraire mixé, comme les comédiens sont mixés en termes d'âge et de profil. Mais on s'est aussi dit que c'était une pièce super intéressante pour du public scolaire. Alors du public scolaire, j'entends au moins lycée, je pense, peut-être troisième, surtout du lycée. Parce que elle se recoupe avec plein de thématiques pédagogiques qui sont étudiées en français, en philosophie. Elle amène énormément d'axes d'études intéressantes.
Et puis tous ces effets de groupe qu'on peut avoir quand on est jeune. Ce que je disais à Guillaume quand j'avais lu cette pièce-là, c'est justement que ça m'avait fait penser à la vague d'Yves Leu. Je ne sais pas si ça te parle, qui est en tout cas un film qui a eu beaucoup de succès, un film allemand, et où c'est ça justement, ce sont des élèves dans un lycée qui sont emportés, qui ont un vrai effet de groupe. Et qui se retrouvent à devenir des anti-humanistes.
Oui, je connais le film. Et du coup, j'ai pas eu le temps tout à l'heure, on parlait de public. Vous attendez une réaction en particulier du public?
Un grincement? Qui ressortent en se
disant « ça fait mal ».
Oui, c'est ça. Du coup, moi, pour avoir déjà joué la pièce, j'ai déjà eu quelques retours sur celle-ci. Et c'est toujours intéressant, en fait, quand quelqu'un me dit il a passé un bon moment, heureusement, mais qu'il ne sait pas s'il a aimé la pièce, ou en tout cas, il ne sait pas s'il s'est senti à l'aise avec. Si on ressort un peu troublé de la visite de la vieille dame, je crois qu'on a gagné quelque chose, parce que ça veut dire que, en tout cas, la personne a réfléchi et continuera dans les jours qui viennent sûrement à réfléchir un peu à ce qu'elle a vu. Et donc ça c'est le sentiment très intéressant.
Ce temps nous a permis de bien découvrir la compagnie Beau Débit. Autre découverte de ce week-end, ce sont les nouveaux talents des Jeux Olympiques d'hiver qui prennent une grande place dans le milieu sportif en ce moment. Mais ce n'est pas pour autant que le sport dans le Maine-et-Loire reste sur le banc. Découvrons-le avec Gabin dans la Minute Sport.
La Minute Sport de Topette.
Bonsoir tout le monde. On va commencer cette chronique par du positif car l'UFAB s'est enfin libéré d'une malédiction qui leur a privé de victoire depuis très exactement 3 mois. Les joueuses d'Aurélie Bonane se sont déplacées à Villeneuve-d'Ascq pour la phase retour du championnat de basket féminin et se sont imposées sur le score de 61-64. Dominée pendant les trois premiers quart-temps, Anna Ngonjok, héroïne de la rencontre, réussit à planter les 14 paniers lors du troisième quart-temps pour remonter les points de retard. Puis, dans cette lueur d'espoir, l'UFAB s'est battu pour garder cette domination, pour marquer collectivement 26 points pour assurer la victoire. C'est peut-être ce match dont parlait Aurélie Bonan comme le match de référence pour qu'elles retrouvent confiance et qui leur permet d'encore croire à la qualification pour la phase finale du championnat parmi les 8 meilleures équipes. En tout cas, il leur faut seulement 2 points pour obtenir cette place à 5 matchs de la fin. Malgré l'ouverture justement des JO de Milan Cortina et de l'épreuve de hockey sur glace, les Dogs de Cholet disputaient le derby de la D1 contre les Corsaires de Nantes. Alors qu'ils s'étaient fait surprendre 1-0 sur la phase aller, les Choletais à la maison ont eu du mal à retrouver la faille sur le premier quart-temps. Mais ont vu double grâce à un premier but signé Tremblay qui dévie la trajectoire du shoot lancé par son coéquipier Lucas Villain. Nantes se réjouissait de gratter des points en égalisant un partout, mais Louis Bellil a dépassé ses fonctions de défenseur pour climatiser Nantes 2 minutes après un second but pour sceller la victoire. Les Dogs restent deuxième pour que les Corsaires, de leur côté, restent dans le bas du tableau. Et on peut encore avancer avec cette équipe. Ce sont les mots du coach Alexandre Dujeu après une magnifique victoire 1-0 du SCO face à Toulouse. Malgré le départ des cadres Sidiki Chérif et Imad Abdelli cet hiver, les Angevins ont réalisé une superbe performance. En toute fin de match, avec un corner toulousain qui semble être dangereux pour le SCO, Laurent Humachine dégage le ballon vers Branko van den Boomen, arrivé en prêt cet hiver. Il lance Lilian Raolissoa, qui réalise un tir lobé de 40 mètres pour sa 100e avec la tunique angevine et trompe le gardien toulousain. Angers récupère la 9e place avec 29 points et accède à la première partie du tableau, de quoi assurer le maintien et rêver d'encore plus comme une possible qualification vers l'Europe. Alexandre Dujeu évoque au micro des journalistes « C'est la première fois qu'on me parle de Coupe d'Europe et je ne suis pas très habitué ». Le SCO est à 2 points de Rennes, 6e du championnat synonyme de qualification en Ligue Conférence. Et enfin, je vais peut-être surprendre l'équipe, mais on va terminer sur de la pétanque. Car pendant 4 jours, la Meilleraie, terrain de Cholet Basket, a accueilli le National de pétanque, l'un des grands rendez-vous pour les boulistes du championnat français. Elle a réuni 4000 joueurs ce week-end, amateurs et professionnels, et jusqu'à 10 000 visiteurs curieux sur place. La salle de basket a été aménagée pour accueillir jusqu'à 800 spectateurs en place assise, réduisant les terrains. Le speaker mythique Marc Alexandre était également présent pour la 35e fois consécutive, mais aussi Sport Media Mat qui a diffusé le live sur YouTube de l'ensemble de la compétition, cumulant plus de 500 000 vues. La compétition a rassemblé des grands joueurs de la pétanque comme Andrea Chapello, Christian Fazzino, Philippe Quintet et Philippe Suchot, champion du monde de pétanque, mais aussi David Doher, champion d'Europe avec l'équipe de France. Mais comme ce sport se joue en trio, c'est la performance d'équipe qui ressort davantage et c'est le trio de David Doher, Patrick Coppa et Baldwin Mani qui a remporté la compétition et qui conclut ce week-end de pétanque.
Merci Gabin pour toutes ces infos sportives. C'est un autre type de sport, mais le théâtre peut aussi nous faire transpirer. Qu'en penses-tu, Loris ?
Oui, je suis assez d'accord avec toi. On revient avec nos deux invités. On va plus parler de votre parcours brièvement. Emmanuel, toi, ton parcours mêle du coup théâtre classique, de texte et improvisation. Qu'est-ce que ça apporte dans ce spectacle ?
L'improvisation elle-même ?
Oui, et ton parcours en général ?
Alors l'improvisation, ça apporte de l'assurance, c'est-à-dire que on n'est jamais sûr de soi, sûr de son texte à 100%, mais par contre on peut être sûr de savoir se rattraper, et ça apporte vraiment ça, c'est-à-dire que on est très très à l'écoute de ses partenaires, et on peut, même si eux sont ne donnent pas la bonne réplique, être complètement réactif et ne pas planter les gens si eux-mêmes se plantent, ou si nous on est à côté de la plaque, on peut toujours se rattraper. Ça donne de la confiance.
Et l'expérience en théâtre classique aussi, ça donne de l'assurance.
Ah oui, de toute façon, oui, parce que j'ai pu fréquenter justement beaucoup de groupes, beaucoup de personnes, et je me rassure moi, mais j'espère aussi rassurer les autres et rester le plus positif possible constamment, de manière à ce qu'on puisse avancer dans une très bonne ambiance, même quand on se sent, là on est à 15 jours des premières, donc on commence à se sentir un peu short, on se dit oh là là, il manque encore plein de choses, les transitions sont pas bonnes, mais rester positif en se disant que ça fonctionnera de toute façon, ça aide.
T'as un peu un rôle de mentor dans cette troupe?
Pas du tout.
Pas du tout?
Non, okay. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment juste quand, là, hier, on a fait notre premier filage qui partait dans tous les sens. Quand ça commence à stresser, c'est juste que, hop, c'est juste de faire redescendre tout ça pour qu'on puisse rester dans la bonne humeur, quoi qu'il arrive. Parce que même si on se plante, autant le faire avec le sourire.
Ok. Et toi, Guillaume, du coup, ce projet t'accompagne depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui ?
Bah, du coup, là, il représente mon premier projet théâtral professionnel. Donc, c'est quelque chose. Je pense que je m'en souviendrai un peu toute ma vie après, parce que c'est là où, j'espère, tout aura démarré. Et puis, bah, en fait, c'est surtout du plaisir, quoi. Un plaisir de jouer cette pièce avec un si beau texte. Et puis, de jouer avec des gens que je connaissais, que j'ai appris à connaître et qui maintenant, bah, font partie de mes semaines, quoi.
Et des projets en vue pour la suite pour toi, Guillaume ?
Ben, moi, je suis comédien à la fois au théâtre, mais aussi pour le petit écran, le cinéma, tout ça. Donc, j'ai des tournages locaux là prochainement qui sont dans la région et d'autres sur Paris, etc. Donc, ça refaire mes heures tranquillement d'intermittence et puis avancer tranquillement comme ça.
La compagnie Beau Débit, ouais, j'ai plein de questions. C'est vrai que c'est chouette de voir un projet qui naît comme ça. Emmanuel, toi, t'es impliqué sur d'autres activités par ailleurs. Est-ce que tu prends déjà des engagements pour la suite aussi, le soutien que tu apportes à Guillaume, peut-être au-delà du spectacle, de participer à cette représentation, à ces représentations d'ailleurs, on va les redonner tout à l'heure.
Est-ce que je prends des engagements? J'ai pas compris la question.
Bah, pas des engagements, mais du coup, est-ce que déjà d'aventure, si Guillaume se relance pour monter une autre pièce, tu te dis ouais, je te suis, je te suis copain.
Carrément. Là, on est tellement justement proche des premières représentations qu'on n'arrive pas du tout à voir l'avenir, en tout cas au-delà de la visite de la vieille dame. Mais carrément, ce sera avec grand plaisir qu'on continuera ensemble. Dis oui, Guillaume, s'il te plaît, maintenant.
Oui.
Merci.
C'est enregistré, non, c'est bon.
Je ne l'ai pas frappé entre-temps, mais j'adorerais ça. Et puis même en dehors de ça, comme c'est important de rester local, ce que disait Guillaume, dans l'autre compagnie dont je fais partie, on commence aussi de temps en temps à l'embaucher en impro, genre de choses. C'est important quand les jeunes professionnels arrivent sur le marché, qu'on puisse les soutenir autant que faire se peut. Mais avec plaisir en plus.
Jeune professionnel, justement, dans le théâtre, on connaît le contexte en région Pays de la Loire. Guillaume, est-ce que tu as vraiment choisi le meilleur moment pour te lancer pour de bon là?
Absolument pas. Mais je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment en fait.
C'est comme les enfants. Pouf, quand faut y aller.
Voilà, faut y aller. Et effectivement, bah, on l'a vécu en fait, parce qu'il y a un an, là, quand on a lancé le projet, on était très, très énergique en se disant qu'on allait remplir plein de dossiers de subventions et qu'on allait trouver des gens pour nous aider à financer cette belle pièce avec 7 comédiens. Voilà, que c'est un projet fort. Et ben non, c'est très compliqué. Oui, le climat actuel n'est pas du tout à l'aide à la culture en général et au théâtre et à toutes ces choses-là. Donc en fait, oui, progressivement, on se dit que ces efforts qui normalement venaient de nos politiques locales, etc., vont devoir de plus en plus venir des gens eux-mêmes qui, s'ils souhaitent continuer à voir perdurer les petites compagnies, le théâtre, ceux qui ne sont pas subventionnés, bah, en venant assister à ces représentations, participeront à l'effort dont ils ont besoin pour subsister.
D'autant que le théâtre, aujourd'hui, est en concurrence avec plein d'autres médiums, les réseaux sociaux accaparent l'attention des jeunes. Je pense à Léoris, par exemple, parce que du coup, toi, tu te positionnes comment par rapport aux propositions théâtrales? Est-ce que d'emblée, voilà, tu te dis, boum, nouveau projet, j'y vais parce que je kiffe? Ou alors, il y a aussi un apprentissage à faire à ce niveau-là. Et puis, des fois, vous pouvez le sentir, vous aussi, peut-être Guillaume et puis Manu, sur l'appréhension, le fait qu'il y a un public qui n'est pas tout le temps là.
Oui, c'est vrai que j'ai un rapport assez lointain avec le théâtre. J'ai pas eu vraiment l'occasion dans ma vie et même dans ma jeunesse d'aller voir très souvent du théâtre. Donc c'est vrai que je suis un peu lointain à ça et je comprends que certaines générations aient du mal. Moi, je pense qu'il faudrait emmener plus souvent des classes, des jeunes, des collégiens au théâtre pour s'habituer au théâtre, parce que je pense que on n'est pas une génération qui n'aime pas le théâtre, mais juste qui est moins habituée à ce genre de divertissement.
Ouais, et puis
il y a mille façons en fait de faire du théâtre. Et j'ai plus jeune travaillé au Quai à Angers quand Thomas Joly était directeur du CNDC.
Et alors, je prends un coup de vieux quand tu dis ça, parce que plus jeune pour moi c'était
vieux que ça. Il y a pas si longtemps. Mais
on voit les échelles de temps.
C'est CDN.
Le CDN.
Et du coup CDN, oui, pardon. Et j'ai vu du coup les mises en scène de Thomas Joly sur des pièces qui ne s'adresse pas initialement à du jeune public ou à du public non averti. Et voilà, il avait une façon de mettre en scène, de faire du théâtre. On avait l'impression d'assister à un film parfois, tellement la musique, la lumière aussi était présente. Et c'est des souvenirs qui m'ont beaucoup inspiré dans la mise en scène de La Vieille Dame. Parce que voilà, j'ai envie qu'au-delà du théâtre, ce soit vraiment une fable qu'on qu'on apporte au, qu'il y ait beaucoup d'images en fait dans l'esprit des gens, et que la musique soit très présente, que la lumière apporte aussi quelque chose, et qu'on s'éloigne des fois peut-être de la représentation très classique du théâtre que certains ont, qui est très bien encore une fois, mais il y en a mille.
Plutôt que, pour recouper avec du coup la pièce dont on parle, plutôt que d'avoir du confort et de l'argent, il faudrait plutôt avoir de l'audace et du courage, prendre du risque, alors que ce soit et dans les propositions, mais aussi dans le fait de se dire, tiens, je vais aller voir une pièce classique aujourd'hui, je vais aller voir écouter de la musique classique. Ouais. Bon, en tout cas, on redonne les infos pratiques dans quelques instants. Mais avant tout ça, Sidonie, on continue?
Mais oui, mais merci pour ces échanges très... très enrichissant. Ah, je perds mes mots. Je vais pouvoir me faire aider par Aurélia pour découvrir de nouvelles expressions dans les charabias d'Aurélia.
Les charabias d'Aurélia.
Les charabias d'Aurélia.
En ce mois de février, vous avez peut-être le moral aussi grisaillou que ce ciel pluvieux. Mais ce samedi, c'est la Saint-Valentin. Alors même si celui que vous appelez Doudou est un caniche abricot, c'est l'occasion de vous dorloter. Que vous soyez fleur bleue ou totalement désabusé, je vous embarque aujourd'hui sur les flots et les mots de l'amour. Étymologiquement, le mot amour vient de amor, en latin et en languedoc. Au Moyen-Âge, le terme se répand grâce aux troubadours qui sillonnent la France pour déclamer les premiers poèmes d'amour courtois. Ils y comparent le sentiment amoureux à une flamme brûlante, d'où l'expression « déclarer sa flamme ». De nos jours, on a gardé cette idée d'emballement soudain, puisqu'on a un coup de foudre ou le cœur qui bat la chamade. En matière de drague, on associe souvent la séduction à certaines parties du corps ainsi qu'à la nourriture. Si par exemple vous voulez signifier à quelqu'un qu'il vous plaît, vous pouvez lui faire du pied, du plat ou du gringue. Le gringue se rapportant au grignon qui est en fait du pain. Les plus romantiques préféreront lancer un coulage de mirettes, les mirettes étant les yeux. Messieurs, si vous levez tôt ne vous fait pas peur, vous pouvez aussi donner l'aubade. L'aubade n'est pas une référence à la marque de lingerie, mais c'est le chant mélodieux du courtisan qui tente de charmer sa belle au petit matin à l'aube. Mais on connaît davantage le fait de donner la sérénade, de l'italien serenata, nuit sereine en théorie. Si votre cible mord à l'hameçon, vos roucoulades dériveront certainement vers ce que l'on nomme au XIXe siècle une fricassée de museau, et qui évoque deux visages qui se touchent tendrement. Deux choix s'offrent alors à vous. Embrasser l'élu de votre cœur à la pincette, c'est-à-dire en lui tenant le menton, comme dans le jeu « Tu me tiens, je te tiens » par la barbichette, ou lui donner un baiser passionné en godinette. Si vous préférez les petits baisers répétés, bécotez-vous, puisque le mot « béco » du latin « becus » signifie littéralement « bec d'oiseau ». Évidemment, vous pouvez aussi vous rouler une grosse galoche, vous sucer la pomme ou vous téter la gargarousse. En Angers, après vous être fripé la goule, vous pourrez conclure mieux que Jean-Claude Duss en vous inclinant, c'est-à-dire en vous câlinant devant un feu de cheminée. En matière d'amour charnel, l'argot français regorge de toutes sortes de métaphores. On met le petit Jésus dans la crèche, on fait la bête à deux dos, on débourre le mammouth, on glisse l'accordéon dans le valseur, on incendie la chambre froide, etc. Plus localement, dans le nord de la France, on fait touquette. Chez les bourguignons, on tringle et dans le sud, on va radader. Quant à nos amis canadiens, ils savent distinguer avec classe celui qui veut son biscuit de celui qui veut faire le flouk. Sur ces derniers mots doux, je vous laisse méditer ce dicton rimé de l'Anjou. Trop d'amour trouble la raison, trop de remèdes est un poison.
Merci Aurélia pour ce moment toujours fort sympathique. Merci à tous pour cette émission, la première que j'animais, et pas la dernière j'espère. Pour finir, Loris a des choses à dire sur la compagnie Beau Débit.
Les applaudissements derrière.
Oui. Non, mais savoir les prochaines dates, où vous retrouver, voilà.
Eh bien, on a les premières représentations qui arrivent très bientôt, le 24 et 25 février, au Folies Angevines, donc à 20h. Venez nous soutenir, venez sur les premières, comme ça, ça nous lancera avec une belle énergie. Et ensuite, ça se reporte comme ça, deux dates à chaque fois, en mars et en avril. Donc 24-25 mars, 22-23 avril, à 20h toujours, au Folies Angevines, avec différents tarifs dégressifs pour les jeunes et les étudiants.
Ok, bah super, merci beaucoup pour votre temps et pour vos réponses.
Merci à toi.
Merci Emmanuel, merci Guillaume. Juste quand même une question, Guillaume, parce que évidemment qu'on vous souhaite le meilleur pour ces premières représentations, mais imaginons, là, vu que tu te lances, t'aurais un rêve ultime à atteindre là, dans les prochaines années, une nouvelle mise en scène. Tu parlais de Thomas Joly tout à l'heure, je sais pas, ça a l'air de t'avoir beaucoup inspiré, peut-être qu'il y a des choses qui se sont dessinées aussi dans ton esprit à ce niveau-là.
Moi, mon rêve actuellement, c'est réussir à vivre de tout ça, en fait. Et déjà, ça serait un super objectif. C'est et ça, après, voilà, j'ai tout le temps de découvrir des superbes pièces et de voir lesquelles je veux monter ensuite.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci.
Emmanuel, toi, d'un tout petit mot, tes autres projets, peut-être, en cours.
Oui, alors le gros projet pour ma compagnie Les Expressos en lien avec la compagnie La Belle Chute, c'est le festival Sur le Fil qui a lieu le 27, 28 et 29 mars au Champ de Bataille, puisque c'est le premier festival d'improvisation professionnelle qui se lance en Anjou. Et il y aura donc 8 spectacles sur ces 3 jours-là qui seront préparés les quelques jours précédents, puisque c'est de l'improvisation. Donc l'improvisation se travaille tout de même, mais c'est le gros projet de cette année pour Les Expressos et La Belle Chute.
Voilà, Angers, ça va devenir terre d'improvisation, terre de stand-up aussi, terre de culture, terre de cinéma. En fait, bah c'est génial. Merci à vous de...
Terre des arts.
Terre des arts, merci à vous de participer à tout ça. Et puis on vous dit merde, bien évidemment. Sidonie, tu avais peut-être des choses à rajouter?
Bon, je voulais juste tous vous remercier, puis passer une bonne soirée. Merci.
Bah oui, merci à toi aussi. Aurélia, est-ce que toi, tu voulais réagir peut-être par rapport à ces propositions théâtrales qu'on évoque ensemble? T'as 2 micros pour le prix d'un, là. Hein.
Eh ben, je renoue avec le théâtre, donc ça me donne pas mal d'idées pour justement revenir sur des choix intéressants.
Et puis, bonne Saint-Valentin avec le mammouth, là. Je sais plus comment c'était tourné, mais en tout cas, heureusement que Esteban, qu'on salue, qui est en stage avec nous en troisième, heureusement que c'était bien détourné toutes ces expressions et que voilà, il sait pas exactement de quoi on a parlé parce que. Mais bon, bonne Saint-Valentin à tout le monde et puis merci Loris, on se retrouve demain.
Oui, de rien, on se retrouve demain, oui, avec plaisir.
18h10, oui, prenez soin de vous, à demain. Et. Salut, Topette, on va se quitter peut-être avec Café de Chololo. On voit si Denis sur le temps.
Sûrement, sûrement.
Sinon, à demain, 18h10. Topette.
Topette.
Chaque tasse de café regorge d'histoires merveilleuses. Découvrez un univers fascinant à travers le partage de l'immense savoir de producteurs rencontrés aux quatre coins du monde par Café de Chololo. Bienvenue dans un cours de cuisine verte spécial alimentation des plantes. On commence par la recette de l'engrais biologique fait maison appelé micro-organisme de montagne. Avec ce super booster, vos plantes seront bien en forme toute l'année. Voici les ustensiles dont vous aurez besoin. Un seau hermétique de 220 litres, une branche ou un bâton pour touiller, un tamis et une pelle bien costaud. Maintenant, passons à la liste des ingrédients. 180 kg de terre de montagne, c'est-à-dire de terre qui n'a jamais été cultivée et, si possible, dont la composition s'apparente à celle de l'endroit où l'on appliquera l'engrais. De la mélasse, ce liquide sirupeux qui provient du jus condensé de la canne à sucre, ou en tout cas quelque chose de sucré, des causes de céréales, par exemple du maïs qui pousse là où il y a du café, et ça peut être aussi du riz ou encore le résidu fibreux de la canne à sucre. Voici les étapes de la recette. Évitez toute impureté dans les ingrédients. Lorsque vous allez chercher la terre, attention à votre dos. Tamisez la terre en la projetant contre une grande maille. Puis, sur la terre tamisée et étalée par terre, ajoutez en couches successives les céréales, puis la mélasse. Il faut bien mélanger le tout avec la grosse pelle. Puis, tout transvaser dans le grand seau, bien fermé hermétiquement. Ensuite, stockez le seau dans un endroit où les conditions sont stables et à l'abri des rayons directs du soleil. Et attendez un mois. Les sucres, bactéries, levures et champignons vont se développer et on verra apparaître une couche blanchâtre, signe de la bonne qualité de la préparation et de la réussite de la recette. Voici l'astuce du chef pour les plus gourmands d'entre nous. Avec seulement 8 kg de cette préparation, on peut obtenir 200 litres de préparation liquide. Dans un autre seau hermétique, il faut enfermer dans un sac les 8 kg de la préparation mélangés à 180 litres d'eau propre et environ 5 kg supplémentaires de mélasse. Et ça, pendant 15 jours. Pour laisser s'échapper les gaz qui vont émaner de la fermentation, on installe un tuyau qui part du seau, passe par un bouchon et finit dans un petit récipient à l'extérieur rempli d'eau. Cela permet qu'aucun corps étranger ne rentre, pas même l'oxygène, mais que les gaz s'échappent et ne créent pas de surpression. Et là, les variantes sont infinies. On peut varier les plaisirs selon ce qu'on veut pour nos plantes. Ajouter du potassium pour une floraison opulente, du crottin ou de la bouse pour des fruits plus charnus, de la bouse fraîche à l'intérieur, croûtée à l'extérieur, qu'on récolte allègrement sur les terrains de foot. De la chaux pour une photosynthèse éclatante. On peut goûter avec le bout du doigt. Si ce n'est ni acide ni amer, le pH est bon, c'est bon pour la plante.
Y pues no, no es repugnante. Los que crecieron en el campo, ¿saben? Una gotita de estiércol no daña.
C'est beaucoup de temps et beaucoup de travail, mais les producteurs l'utilisent parce que le coût est réduit et que les résultats sont efficaces. En plus, c'est 100% bio.
À bientôt pour de nouvelles aventures avec Café Chololo.
Hij had die fijne capuchon, was oversized, maar ik was dom en ik had jou dat ding nooit moeten geven. Hij was eigenlijk niet bijzonder en voor mij te veel gekrompen. En stiekem stond hij jou ook beter. Bleef tegen mezelf zeggen dat ik niet zou moeten vertrekken, maar niks was minder waar. Het was te laat toen ik besefte wat ik nooit heb durven zeggen tegen haar. Was ik maar eerder bij je weggegaan, wat heb ik mezelf toch aangedaan? Laat die hoodie maar hangen, dan kan je huilend naar me verlangen. Was ik maar eerder bij je weggegaan, want je hebt nooit echt je best gedaan. Ik heb dat ding niet meer nodig, nee, want jij bent niet te geloven. Zeggen, maar het tune is genoeg om je nog één keer uit te leggen dat ik niks van je moet. Yo, die hoodie staat je goed, je ziet me lachen als laatst. En dan kun je aan me zien dat het goed met me gaat. En nee, je hoeft me niet te groeten als ik loop door je straat. En de bloemen die ik koop, ja, die gaan naar mijn ma. Helaas, je bent het niet waard. Was ik maar eerder bij je weggegaan, wat heb ik mezelf toch aangedaan? Laat die hoodie maar hangen, dan kan je huilen naar me verlangen. Was ik maar eerder bij je weggegaan, want je hebt nooit echt je best gedaan. Ik heb dat ding niet meer nodig, nee, want jij bent niet te geloven. Verspild en die krijg ik niet terug. En als je mij wil bellen, bel mijn manager terug. Oh, waar zat ik bij m'n hoofd? Al haal je alles uit de kast, ik hoef die hoodie niet terug. Want het ligt aan jou dat het niet is gelukt. Oh, waar zat ik bij m'n hoofd?